Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Coup d'envoi demain mardi à Bangui, en République centrafricaine, du forum de renforcement de capacité des médias sur la prévention des conflits liés au discours de haine en Afrique centrale. Au menu, ausculter les outils onusiens et les dispositifs légaux pour juguler ces discours. Accalmie aujourd'hui dans la région de Djomba au Nord Kivu après des affrontements du week-end entre les FARDC et le M23. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu dénonce la violation du cessez-le-feu par ce mouvement rebelle. Notre invité, c'est Joseph Amissi Lubango, c'est auteur de l'ouvrage intitulé « Démocratie communautaire plaide pour la création à Kindu d'un centre culturel au Maniema ». Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masirika, mise en nom de Didier Donayangasa. Ouverture demain à Bangui, en République centrafricaine, du deuxième forum régional de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés au discours de haine en Afrique centrale. Ce forum réunira autour d'une même table des responsables des médias en ligne et des blogueurs venus d'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la RCA, du Congo, de la RDC, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de Sao Tomé-Principe et du Tchad. Les participants vont échanger sur les expériences, sur les outils onusiens et les dispositifs légaux pour juguler les discours de haine dans la région. D'autres précisions avec vous, Pamela Loubaki.
Organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, ce deuxième forum, qui fait suite à celui tenu à Douala au mois d'octobre 2021, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine lancé le 18 juin 2019 par le secrétaire général Antonio Guterres. Le forum va être aussi une plateforme de réflexion et de sensibilisation au cours de laquelle plusieurs communications de chercheurs, universitaires, éducateurs, journalistes, responsables des organes de régulation, partenaires gouvernementaux, représentants du système des Nations Unies et de la Commission de la CEAC vont être articulés autour des questions de l'ampleur du discours de haine dans les médias en ligne d'Afrique centrale, son impact négatif sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, les dispositions légales et réglementaires en la matière, les enjeux éthiques et déontologiques, la responsabilité sociale des journalistes, les perspectives en termes de régulation et de l'autorégulation. Depuis Bangui, Pamela Loubaki pour Radio Okapi.
Direction maintenant le Nord Kivu où une accalmie s'observe aujourd'hui dans la région de Djomba où aucun tir n'est entendu après des affrontements du week-end entre les FARDC et les rebelles du M23. Les deux parties ont repris subitement des affrontements samedi après une dizaine de jours d'accalmie. Dans une déclaration faite hier dimanche après-midi à Goma, le porte-parole du gouverneur a parlé de la violation du cessez-le-feu. Les propos du général Sylvain Ekenge ont été recueillis par Sifamagrou.
Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion dans la journée du samedi, le 23 avril 2022, aux environs de 15h locales, le M23 a attaqué les positions des FARDC, des Bougoussa, Kinyamahura, Wambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire des Rutshuru, violant ainsi la trêve et le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeuiller la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire.
L'actualité, c'est aussi la poursuite ce lundi à Nairobi, au Kenya, des consultations sur la paix entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Certains miliciens conviés au conclave attendent toujours les moyens pour rejoindre la capitale kenyane. D'autres affirment n'avoir pas reçu d'invitation formelle. Explication de Bernard Nanyangi.
Jusqu'à la fin de la matinée ce lundi, une grande délégation des représentants des groupes armés du Nord Kivu, qui ont déjà finalisé les formalités pour le voyage à Nairobi, attendaient toujours leur avion à Goma, selon les sources proches de ce groupe. Il s'agit entre autres d'un des rénové de Mapenzi Fidèle et de Ziringabo, l'UPDC de Bilikoliko, FDDH Nyatura, de Doussab Gachamira, Gav de Matata Suleiman, AFRC de Kakule Massivi et APCLS L. Paul Mwanuka. Nombreux autres groupes armés importants affirment avoir déjà été contactés, mais disent attendre une invitation formelle pour cette mission en Nairobi. C'est entre autres l'APCLS de Janvier Kalaheri, dont le porte-parole précise que leurs délégués attendent encore une confirmation plus convaincante avant de venir à Goma pour des formalités. Même chose pour le collectif des mouvements pour le changement SEM Signatura de Rutshuru et FPP de Kabidon, actifs en territoire de Lubero. Aussi, selon nos sources, les délégués de ces groupes armés locaux en attente à Goma depuis 2 jours se plaindraient déjà du fait que leur prise en charge ne soit pas encore assurée. Goma, Bernardin Ngangi, Radio Okapi.
Et en Ituri, pendant ces temps, les leaders des groupes armés se disent disposés à participer aux consultations de Nairobi. Ils déplorent cependant le silence du gouvernement central qui n'a rien dit pour faciliter leur déplacement. Nous n'avons pas encore la réaction du gouverneur à Bounia, Isaac Remoyope.
Parmi les milices qui sont actives en Ituri, la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC et l'Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais IRDPC CODECO. À cela s'ajoute la Force des Résistances Patriotiques de l'Ituri FRPI qui avait signé depuis 2 ans un accord de paix avec le gouvernement. Le leadership de la CODECO indique qu'il a reçu il y a quelques jours un appel anonyme pour solliciter leur participation à cette rencontre à Nairobi. Mais aucune source officielle n'a encore contacté cette milice pour les modalités pratiques. Cependant, ils se disent favorables au processus de paix initié par certains chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Même réaction du côté de la milice FPIC qui attend les orientations des autorités pour participer à ces assises. Du côté du groupe armé FRPI, ses leaders attendent l'application des clauses de l'accord signé en février 2021 à Guéthi. Nous n'avons pas encore la réaction du gouvernement militaire de l'Ituri par rapport à ces doléances de ces différents groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Revenons au Nord Kivu où les activités ont été paralysées aujourd'hui dans la région de Beni-Boutou, Tembo et Lubero suite à l'appel lancé par des groupes de pression la Véranda Mutsanga en vue d'une journée ville morte. Objectif, réclamer la levée de l'attaque d'assiège. Pour en parler, retrouvons à Boutembo grâce à Mzati.
Dans la ville de Boutembo, certaines boutiques, magasins et officines pharmaceutiques au centre commercial sont restées fermées, tout comme certaines écoles. Dans les territoires de Lubero, la situation est presque similaire à Lubero Centre ainsi qu'à Kirumba. À Beniville, le mot d'ordre n'a pas été suivi d'effet. La circulation est restée normale et les activités socio-économiques ont fonctionné normalement. Banques, boutiques et marchés sont restés ouverts. Hormis une tentative de barricade de la route Beni-Oicha par des manifestants qui ont été vite empêchés par les forces de l'ordre. Idem dans les communes rurales de Kaina, Kanyabayonga ainsi que dans les secteurs de Bapere où tout se déroule aussi normalement. Cependant, une forte présence de l'armée et de la police est visible à travers plusieurs endroits chauds de la ville de Beni. Selon le porte-parole de la police, ces déploiements visent à parer à toute éventualité. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Santé à présent. Le paludisme est la maladie la plus meurtrière dans la province du Sud Kivu. L'antenne provinciale du programme de lutte contre le paludisme affirme que le taux de prévalence est de 170 cas pour 1000 habitants, ce qui constitue en un point douté un seuil inquiétant. En cette journée dédiée à la lutte contre le paludisme, ce programme insiste sur la nécessité de l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés d'insecticides et l'assainissement du milieu. Question. Comment s'organise en ce moment la prise en charge? La réponse avec vous, Cynthia Bachizina Bizana.
Officiellement, le paludisme est pris en charge gratuitement dans les structures de santé du Sud Kivu. C'est notamment la consultation, le test de diagnostic rapide et les médicaments que le gouvernement et ses partenaires mettent à la disposition des malades. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. C'est ainsi qu'au moment de sa première consultation prénatale, la femme enceinte reçoit un traitement préventif et une moustiquaire imprégnée d'insecticides. L'enfant de moins de 5 ans reçoit également le même type de moustiquaire lorsqu'il termine son calendrier vaccinal. Le défi aujourd'hui pour le programme de lutte contre le paludisme dans la province est le taux de fréquentation des consultations prénatales qui est très faible. Cela ne favorise pas une bonne prévention. Par ailleurs, l'assainissement de nos milieux pose problème car les endroits non assainis peuvent constituer des gîtes pour les moustiques. Le programme provincial de lutte contre le paludisme invite donc la population a procédé régulièrement au drainage des eaux stagnantes. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Non loin de là où Maniema, 182 ménages sinistrés du conflit communautaire de Kayuyu dans les territoires de Kasongo ont reçu ce week-end du gouvernement central des vivres et des non-vivres. C'était en présence du représentant du gouverneur intérimaire. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
L'assistance du gouvernement Samaloukonde était constituée pour chaque ménage des 30 étoles, 9 kilos de clous, matelas, 25 kilos de haricots, 21 kilos de riz, huile végétale, bassin, bidon, casserole, gobelet, assiette et seau. À part le ménage, les centres de santé de Kayuyu et ses deux postes ont bénéficié près de 15 tonnes de médicaments, sans oublier les matériels de construction de la mosquée et de l'école primaire Moussada. Certains bénéficiaires témoignent.
Je suis content pour recevoir les lots des médicaments et nous félicitons notre président de la République pour pouvoir penser à la population de Kayuyu. Nous allons gérer ces dons comme responsables.
Nous étions frappés d'un incendie et aujourd'hui, notre réjouissance arrive du fait que le gouvernement national tant que provincial vienne en aide pour nous servir. C'est pourquoi il y a une grande masse qui se réjouit à propos de cet acte qui se déroule aujourd'hui.
Le déroulement de cette opération qui a duré 2 jours, soit du 20 au 21 avril, a été salué par la société civile locale. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et puis le train New Express Diamant Béton de la SNCC en provenance de Mweneditu a connu un déraillement hier dimanche entre les villages de Ngouba et de Moutaka dans le territoire de Louboudi, province du Lualaba. À la base, un gros camion a percuté de plein fouet à la locomotive. Le bilan fait état d'importants dégâts matériels sous les camions qui transportaient des minerais. À Lubumbashi, la correspondance de Jean Gandou.
C'est ce dimanche aux environs de 23h que la circulation a été rétablie sur cet axe routier de la nationale numéro 1 sur la route Kolwezi. La locomotive et la voiture à générateur qui ont quitté le rail après ce choc ont barré la route pendant plus de 10h. Cela a fait que des centaines de camions transportant les minerais, les bus, les transports en commun et autres étaient restés bloqués des parts et d'autres du lieu de l'accident. D'après nos sources, la locomotive a subi quelques dégâts, mais le camion est sérieusement endommagé. Seule la carrosserie transportant le minerai est restée intacte. Le chauffeur s'en est miraculeusement bien sorti, mais il est aux arrêts. Lors de son audition, il aurait reconnu que le système de freinage de son véhicule posait problème. Voilà pourquoi il voulait à tout prix traverser vite le rail avant que le train n'atteigne le passage à niveau. C'est ainsi qu'il est allé percuter la locomotive. Notons que la direction générale de la SNCC a mis à la disposition des passagers qui étaient à bord du train et qui sont sains et saufs des bus qui les ont transportés jusqu'à Lubumbashi, leur destination finale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Union africaine a félicité le président français Emmanuel Macron pour sa brillante réélection après sa victoire dimanche face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Les dirigeants de l'organisation panafricaine plaident pour l'établissement des relations rénovées et mutuellement avantageuses entre la France et l'Afrique. Un militaire sud-coréen en service a tenté d'aller se battre en Ukraine mais n'a pas réussi à traverser la frontière polonaise et a dû rentrer au pays. Un retour qui s'est mal déroulé puisqu'il a immédiatement été arrêté à son arrivée dans son pays.
L'invité.
Notre invité, c'est Joseph Amissi Lubango. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Démocratie communautaire » lors de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Cet écrivain a plaidé ce week-end pour la création d'un centre culturel au Maniema. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Bonjour Monsieur Joseph Amissi Tété.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et auteur du livre intitulé « Démocratie communautaire comme alternative africaine, pacte social en RDC ». Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, dans mon livre, je propose un nouveau pacte social dans notre pays et en Afrique. Parce que c'est un projet politique structurant panafricain. Nous proposons en fait un autre modèle de société alternative à celle que nous avons héritée de la colonisation. Voilà succinctement ce que cela signifie démocratie communautaire comme alternative africaine, pacte social en RD Congo.
Votre livre semble toucher des questions d'actualité politique au pays. Quel est son contenu?
Oui, parce que nous proposons un autre système politique alternatif à celui que nous avons hérité de la colonisation. Il touche la politique parce que, effectivement, c'est un projet politique structurant. Nous proposons une nouvelle forme de démocratie telle qu'elle a été vécue dans la Grèce antique et en Afrique aussi. Ça signifie qu'il faut au préalable organiser les populations à la base et étendre cette démocratie à toutes les couches de la population. Et structurer parce que ces communautés sont des sous-systèmes politiques, sociaux, économiques stables, indépendants des citoyens qui la composent. Ce sont des structures stables et qui deviennent des institutions de la République au même titre que la présidence de la République, l'Assemblée nationale ou provinciale, le Sénat. Non, nous, on n'a pas prévu le Sénat.
Votre livre est lu dans les grandes universités européennes, mais dans aucune université de la RDC. Pourquoi ces contrastes?
Oui, parce que au départ, dans le contrat avec l'éditeur, les services ont été non payants. L'éditeur a lu le manuscrit, il l'a trouvé intéressant, il a dit... Je le publie, sans payer un sou. Et maintenant, parce que ce livre-là, c'est un best-seller, il coûte 71,90 €, l'équivalent de 90 $ aujourd'hui. Ce livre, qui pourrait l'acheter à Kindu ou à Kinshasa à 90 $? Je suis donc dans l'impossibilité de racheter mes livres à ce prix-là. Voilà pourquoi je suis bloqué. Et le message de détresse aujourd'hui, c'est demander à un mécène, à un des hommes de bonne volonté ou à un éditeur qui pourrait rééditer mon livre et le vendre sur le marché congolais à un prix plus abordable. Parce que le livre, il est aujourd'hui traduit en anglais, en espagnol et en portugais. Il est lu dans toutes les universités européennes et voilà, nulle part en République démocratique du Congo.
Vous parlez d'une situation de détresse du fait que vous n'êtes pas entré en possession d'une copie de votre livre. Pourquoi et comment, monsieur Joseph?
Oui, parce que, je l'ai dit un peu au début, le service a été gratis. L'éditeur a trouvé tout simplement que c'est intéressant, il publie. Et son champ de marché, ce sont les universités européennes uniquement, pas ailleurs. Voilà pourquoi, même vous êtes à Bruxelles, à Paris, vous ne pouvez pas entrer dans une librairie et vous trouvez mon livre. Non, c'est seulement dans les universités. Voilà pourquoi je ne suis pas en possession de mon livre.
Est-ce qu'on peut avoir l'adresse des éditeurs?
Oui, les éditions universitaires européennes avec email info@omniscriptum.com.
Et voilà que l'humanité célèbre chaque année le 23 avril la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Quelle est la situation au Maniema?
Bon, au Maniema, c'est nul, il n'y a rien du tout qui est organisé. Au départ, il y a des associations d'écrivains. Quand les écrivains se retrouvent ensemble, ils créent cette association et ce sont eux qui peuvent mener des actions en allant vers les écoles, vers les jeunes, susciter l'intérêt de la lecture et de l'écriture.
Qu'est-ce qui vous manque en province pour que vous ayez cette association?
Oui, il est vrai que je l'ai remarqué et j'ai soumis ce projet à Monseigneur François, l'évêque de diocèse de Kindu, à préoccupation. Et lui aussi, il est préoccupé de cela. Et nous espérons que un de ces quatre matins, il pourrait, parce que nous sommes allés plus loin, nous avons proposé de la création d'un centre culturel du Maniema. Et au sein de ce centre culturel du Maniema, on trouverait une bibliothèque.
Est-ce qu'au Maniema, il existe d'abord une structure qui encadre les jeunes en écriture?
À ma connaissance, non. Par contre, je connais qu'il y a deux ou trois écrivains, ce sont des professeurs d'université seulement.
Vous êtes écrivain et auteur, quel serait votre souhait à la jeunesse?
C'est susciter l'intérêt de lire et plus tard d'écrire.
Monsieur Joseph Amissi Tete Lubango, grand merci à vous.
Je vous remercie madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, Joseph Amissi Lubango, qui est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Démocratie communautaire ». C'était à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Cet écrivain a plaidé ce week-end pour la création d'un centre culturel au Maniema. Il a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Alain Rungmushij qui l'a supervisé. Retrouvez-les sur www.radiokapi.net.